Antoine Chaube.
L'armée a mobilisé 53 personnes suite à l'ébout de monde dans le Lechontal. L'engagement pourrait passer à 120 hommes, selon le divisionnaire Reynald Draud. Des pompes à eau, des excavateurs, du matériel d'éclairage et d'autres matériels sont prêts. L'armée ne peut toutefois pas commencer à opérer pour le moment en raison du danger qui persiste. Israël poursuit sa colonisation de la Cisjordanie. Le gouvernement a annoncé hier la création de 22 nouvelles colonies. 9 seront créées de toutes pièces, alors que les autres seront des avant-postes créés par des colons sans l'aval du gouvernement. Elles seront ainsi légalisées par Israël. Cette décision nous mène dans la mauvaise direction pour la solution à deux États, a regretté l'ONU, qui dit s'opposer à toute extension de la colonisation. Les Nations Unies rappellent régulièrement que cette pratique est contraire au droit international. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé hier à la création d'une Pax Europae. Celle-ci doit permettre à l'Europe d'être indépendante en termes de sécurité. Un nouvel ordre international va émerger avant même la fin de cette décennie, a prévenu Ursula von der Leyen. Elle estime que l'Union européenne ne peut plus se reposer sur l'OTAN pour garantir la paix. Elle a mis en garde face aux velléités impérialistes de régimes autoritaires. Ce nouveau chapitre dans la bataille qui oppose Donald Trump à l'université d'Harvard, une juge a annoncé hier qu'elle suspendrait l'interdiction d'accueillir des étudiants étrangers. Une annonce accueillie avec soulagement par les premiers concernés, alors qu'Harvard tenait hier soir sa cérémonie de remise de diplôme. Les Nations Unies pourraient réduire les effectifs de son secrétariat de 20%, cela dans le cadre de la réforme engagée pour rendre l'organisation plus efficace alors qu'elle fait face à des coupes budgétaires. Son secrétariat est un de ses organes principaux, il emploie quelques 35 000 personnes, principalement à New York, mais aussi à Genève, Vienne ou Nairobi. En tennis, Novak Djokovic a dominé Corentin Moutet au deuxième tour de Roland-Garros. Il a battu le Français en trois manches 6-3, 6-2, 7-6. Avec cette victoire, le Serbe est devenu le premier joueur à atteindre le troisième tour du tournoi parisien pour la 20e fois. Et le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, s'est quant à lui qualifié sans trembler. Il a battu Richard Gasquet 6-3, 6-0, 6-4. Une défaite sévère pour le Français qui a mis un terme à sa carrière à l'issue de la rencontre. Météo, il fera chaud et ensoleillé aujourd'hui. Le ciel ne comptera que de rares cumulus l'après-midi en montagne. Le thermomètre va varier entre 12 et 28 degrés en plaine. La température devrait même atteindre les 30 degrés en Valais et à Genève. Un vent faible et variable soufflera en montagne. L'isotherme du 0 degré se situera vers 4000 mètres. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 4 heures.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
À 8h ce matin, une centaine de gendarmes ont investi la commune d'Olon, accompagnés de chiens policiers, pour permettre aux géologues mandatés par la CEDRA d'effectuer les travaux.
Avec le podcast 1001 Archives, revivez des moments de l'histoire suisse. 1001 Archives, à écouter sur l'application Play RTS, rts.ch/audio, Spotify, Apple Podcast et la plupart des plateformes d'écoute.
La nuit, le son reste clair. RTS Première.
Vertigo, Pierre-Philippe Kader.
Et Rodolphe Beauchamp en régie, bienvenue à vous.
Vertigo.
Dans cette émission, nous allons accueillir d'ici une petite demi-heure notre invitée. Elle s'appelle Floriane Soulas. Elle est autrice, ingénieure. Elle publie chez Robert Laffont dans une nouvelle collection qui s'intitule « Ailleurs et demain », un court récit de science-fiction qui s'intitule « Soma ». Savez-vous autour de la table, Thierry Sartoretti, Florence Grivel, Yacine Emra, ce que veut dire « Soma »
Oula.
Ça vient de la douleur, non?
Presque.
Somatique.
Somatisé.
Ouais.
Ah, on voit que...
Teaser de Soma.
C'était une maison de disques finlandaise aussi, Soma.
Oui,
voilà. Il est hors de la souffrance, Thierry, c'est normal.
Bon, c'est l'ensemble des cellules qui nous constituent, hors les cellules qui nous caractérisent sexuellement. À peu près, je simplifie.
Ouais, okay.
Bon, voilà.
C'est la somme des cellules asexuées, soma.
Ouais, voilà, ah bah voilà. Waouh.
J'avais dit sur hasard.
Mais je suis un génie. Non, mais c'est un génie. Oui, c'est un génie. C'est un roman de science-fiction qui se déroule donc dans un futur assez proche quand même, puisque on a quelques traits de reconnaissance avec notre époque actuelle. Et c'est un roman que l'on appelle dans le genre steampunk. On vous expliquera tout ça tout à l'heure et nous en parlerons avec notre invité Floriane Soulas. C'est l'histoire en fait d'une femme cyborg qui se rend compte qu'elle a été clonée. Pourquoi, comment et par qui, tout cela dans ce court roman publié chez Robert Laffont. Dans cette émission, on ira également au théâtre avec vous, Thierry Sartoretti, manger des gnocchis.
Exactement, vous prenez de la farine, vous prenez des pommes de terre et deux comédiens, comédiennes, et vous avez un bon spectacle qui s'appelle Gnocchi à Genève.
Très bien.
On mange.
Bon, très bien. Yacine Nemra, vous nous ferez le portrait de l'invité.
Absolument, dont vous avez résumé l'œuvre, donc j'ai pas grand chose de plus à dire maintenant. Merci beaucoup, Pierre.
Je vous en prie. Et Florence Grivel,
nous une recette de belle expo, de belle expo à l'appartement à Vevey. Vous prenez deux artistes qui sont distants de deux générations, James Barnard et Nico Crignot, on mélange, deux artistes de photographes qui sont issus du continent africain, l'un est noir, l'autre est blanc, l'un est très âgé, l'autre est plutôt jeune. Vous allez voir, c'est une exposition, mais absolument irrésistible.
À l'appartement à Vevey, bienvenue à vous toutes et à vous tous.
17h, 18h, c'est Vertigo.
Et on ouvre cette émission avec une nouveauté signée Richard Ashcroft, l'ancien chanteur de Verve. Voici Lover, et juste après nous partons au théâtre.
Just talking about my love.
Richard Ashcroft dans Vertigo, c'est une nouveauté. Richard Ashcroft avec cette chanson intitulée Lover, l'ancien leader de The Verve. Vous vous souvenez de The Verve, Bittersweet Symphony, ça vous parle, hein,
et, voilà. Et du procès qui a suivi.
Exactement.
Et les Rolling Stones qui avaient porté
plainte. Les Rolling Stones qui disaient, oui, c'est à nous, alors tu nous donnes tout l'argent que tu as gagné avec, ce qui a été fait, mais pris de remords et sans doute assis sur une colossale fortune, à un moment donné, Mick Jagger s'est dit, mais en fait, pourquoi on lui a taxé tout cet argent alors qu'on n'en a pas besoin, et lui ont redonné de l'argent.
Oui, c'est vrai. La classe.
C'est la classe quand même. Okay. Hein, c'est pas mal.
Gnocchi en français, gnocchi en italien. Hein. Gnocchi, gnocco, gnocca.
Vertigo, le théâtre.
Allez. Gnocchino, gnoccolino, gnocchetto, gnoccoletto, gnoccaccio, gnoccolaccio, gnocculcio, gnoccoluccio. En italien, on a une montagne de vezzeggiativi. Hein. En français, ça n'existe pas. C'est vraiment dommage.
La comédienne Paola Pagani dans sa cuisine à Genève, les décrire c'est bien, les gnocchi, les manger c'est mieux évidemment. Thierry Sartoretti, avez-vous goûté l'accessoire principal de cette pièce de théâtre nommée donc gnocchi?
Mais bien sûr, et ils étaient tellement bons Pierre-Philippe que depuis je me suis acheté un presse-purée à l'ancienne pour préparer mes propres gnocchi.
Ouais, je suis sûr que vous l'aviez déjà.
Non.
Eh bien nous arrivons tout à l'heure.
Oui, patience, je vous raconte d'abord le principe de ce spectacle joué en appartement devant le théâtre du Grutli à Genève. Nous sommes une dizaine de personnes à attendre. Départ avec un guide vers un immeuble du quartier de Plainpalais.
Nous allons vous demander d'éteindre complètement vos téléphones pour faire de ce moment une parenthèse enchantée de votre quotidien. Voilà. Les toilettes sont en face de l'entrée pour les gens qui ont besoin. Et puis rendez-vous à la cuisine pour le spectacle.
On se sert autour de la table, les pommes de terre en robe des champs sont bientôt cuites dans la marmite. Farine, sel, coulis de tomate, huile d'olive, tout est prêt. Nous ne perdons pas une miette de ce qui se mitonne là. La comédienne ne joue pas son propre rôle, elle est Ornella Galli, une Italienne venue à Genève dans les années 60. Tout en préparant sa recette, elle nous raconte sa vie, son apprentissage du français et aussi son fils parti vivre au Mexique.
J'ai atterri à Genève un peu par hasard. Borges, l'écrivain argentin, tu vois, il est au fond du cimetière, là, il y a sa tombe. Eh bien, lui, il a écrit quelque part que parmi toutes les villes du monde, Genève est la plus propice au bonheur.
Les patates sont cuites. Ah, un spectateur courageux, c'était pas moi, teste le moelleux d'un tubercule bien chaud en le glissant entre son bras et son avant-bras.
Ma mère, quand elle faisait cuire les pommes de terre, elle me disait « Metti la qui, nell'incavo del braccio, e stringi un pochino solo. Senti che bel caldo, ti va dappertutto. Tu veux essayer? C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Tu mets là, tu serres un tout petit peu, hein? Parce qu'elle est cuite.
C'est vrai, c'est
tu bon. Sens la chaleur.
Ouais, c'est
agréable.
On la passe.
Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'essayer.
Si. On passe toujours la patate chaude à autrui.
Oui, exactement. Rappelons le titre de ce spectacle. En appartement, Thierry Gnocchi.
Oui, les voici prêts, ces gnocchi. On passe au salon pour la dégustation. Ornella Galli reste en cuisine et là, vlam, comme dirait ma collègue Florence Grivel. Saut dans le temps, arrive Renato. Son fils a vécu si longtemps au Mexique qu'il a désormais un accent tout sauf italien. Vieille dame, Nonna Ornella a été enterrée il y a peu. Notre agape de gnocchi est devenue repas funéraire.
Rosalba, elle n'est pas là.
Hein?
Rosalba. Oui, la voisine, l'hongroise. Parce qu'elle avait dit qu'elle allait passer. J'ai mis de côté des habits, des habits pour elle. Elle n'est pas là. Elle n'est pas venue. Ça fait rien. Écoutez, voilà, j'étais à la cave. J'ai pris ce qui restait. Et quand même, la maréto, je vais y arriver. Voilà. De la maréto, servez-vous. Et voilà, monsieur. Je vous déplace, mais quand même, comment vous.
Moi, je ne bois pas d'alcool, moi.
Vous, mais un petit peu. Oh. Vous connaissez ma mère.
Alors on va le faire.
Ma mère, elle aurait pris un tout petit verre avant de manger et même aussi après. Donc, il me disait, toujours, ça m'aide à faire la digestion. Donc, voilà. S'il vous plaît, prenez, mais distribuez, ne soyez pas timide.
Alors nous sommes là pour aider Renato, alias le comédien Antonio Buil, à ranger l'appartement de feu sa maman. Je ne vous en dis pas plus, ce théâtre à la fois intime et participatif m'a beaucoup touché. Cette thématique de l'appartement qu'il faut vider après décès concerne tout le monde. Et c'est ma foi l'estomac plein et l'œil un tout petit peu humide que l'on quitte ce lieu qui acquérera bientôt une nouvelle vie.
Gnocchi, c'est une pièce du duo Paola Pagani et Antonio Buil, ce duo qui poursuit donc sa tournée, on le précise encore une fois, en appartement. C'est du 2 au 7 juin, ça se passera à Bellevue et à la rentrée ailleurs en Suisse romande. Où trouver les informations nécessaires, Thierry?
Alors, sur le site du Théâtre du Grütli ou celui de la compagnie teatrodueponti.com, teatrodueponti.com, donc teatrodueponti.com.
Merci Thierry. Bonnie Banane, accompagnée de Varnish La Piscine pour ce titre La Lune et le Soleil. Elle sera le mois prochain dans les Franches-Montagnes au Spiegelberg Festival. Ça se tient du 26 au 28 juin.
L'art visuel dans Vertigo.
En route pour Vevey, nous arrivons à l'appartement. Deux expositions réunissent deux artistes photographes issus du continent africain, James Barnor et Nico Krijno. Et c'est à ne pas manquer, Florence Grivel.
Eh ben oui, d'un côté, le doyen James Barnard, né en 1929 au Ghana. Il est dans la foulée d'un Malik Sidi Bé avec des personnes du quotidien qui posent dans son studio derrière des décors de paysages peints à la main. De l'autre, le plus jeune, Nicro Crino, né en 1981 en Afrique du Sud, qui explore de toutes les façons le support photographique. Le premier photographe est noir, l'autre blanc. L'un fait des portraits, documente les transformations socioculturelles du Ghana et du Royaume-Uni, là où il vit aujourd'hui. Il photographie depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Il a passé du noir blanc à la couleur qu'il a importé en Afrique. Et puis l'autre joue du scan, des ciseaux, de la caméra de façon virtuose, au potentiel de créativité avec une utilisation des couleurs absolument envoûtante. On pose le contexte avec Stéphane Hochtol, directeur d'Image Vevey, qui pilote aussi la programmation de l'appartement.
Ce qui est super fascinant, c'est de voir ces deux travaux côte à côte avec un James Barnard qui a fait une carrière, je dirais, dans une photographie plus classique, avec des magnifiques portraits en noir et blanc, des portraits en couleur aussi. Il avait deux studios photo au Ghana et il a participé à photographier toute l'indépendance du pays. Et puis, il est parti à Londres, où il est rentré beaucoup plus dans la photographie de mode, la photographie de magazine, mais toujours avec son écriture vraiment très personnelle.
Vous diriez que c'est quoi son écriture ?
Cette capacité extraordinaire, surtout de faire des portraits. En fait, on va avoir beaucoup de portraits, toujours avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de, avec finalement une mise en scène très contemporaine. Il a aussi bossé pour des magazines de musique comme Drum Magazine, des calendriers comme Agip, par exemple, donc la grande compagnie de pétrole italienne qui va lui demander dès les années 60 de faire des calendriers pour lui. Donc il va travailler ses mises en scène et street photography, donc en jouant beaucoup sur une espèce de spontanéité, un naturel qui fait passer la mise en scène, enfin difficile à percevoir. Donc on voit bien l'écart qu'il y a entre un photographe qui est rompu au noir et blanc et puis qui ensuite devient un pionnier de la couleur dans son pays. Et puis 40 ans plus tard, plus au sud, en Afrique du Sud, Nicro Crino qui, de manière déroutante et hyper créative, compose, recompose et retravaille des images de plein de sources différentes pour en créer des œuvres uniques.
Stéphane Hochtol, le directeur d'Image Vevey, qui nous parle de cette exposition à voir en ce moment à l'appartement. L'appartement, c'est à l'étage, dans la gare de Vevey. C'est très facile.
Les anciens appartements des cheminots.
Exactement.
Il y en a deux, c'est magnifique.
Ouais, c'est un très bel endroit. Ouais. Une expo que vous trouvez très maligne.
Ouais, je la trouve super maligne parce que si vous aimez le vintage, la photo documentaire ou de mode qui synthétise ou exalte l'époque et les pays qu'elle cadre, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez l'esprit surréaliste, contemporain, un peu pop, les images en mouvement, comme cette vue de caverne qui donne sur la mer ou ces immenses tirages aux motifs colorés et aux compositions envoûtantes comme des cadavres exquis, tirages par scan qui rejoue l'archive photo de l'artiste. Bon, c'est assez abyssal ce que je vous dis là, mais sur place, vous allez voir, c'est très simple. Vous êtes au bon endroit. Et puis, si vous voulez comparer deux photographes appartenant au continent africain, distant de quasi deux générations, vous êtes au bon endroit. Sur place, Nicro Crino, à qui j'ai demandé ce qu'il pensait du travail de son aîné, Stéphane Hochtol traduit ses propos.
Pour les Européens, c'est toujours tricky to really access the mind
en tant qu'Européen qui a grandi à Cape Town, en Afrique du Sud, Nico regarde cette exposition de James Barnard en disant vraiment des choses très efficaces. C'est-à-dire qu'ici en Europe, on est submergé de biens et toujours tendu et malheureux un peu. Ou soucieux, il disait là, dans nos têtes, alors que dans l'univers de James Barnard, il reconnaît justement toute cette population d'un continent qui finalement a bien peu de choses au quotidien. La population a peu de choses au quotidien, mais comment elle arrive à simplement être joyeuse dans leur corps, profiter de leur corps et de leur existence, et que cette exposition de James Barnard résonne en lui, dans ce qu'il voit comme finalement, même si le Ghana et l'Afrique du Sud sont, il dit, à la fois éloignés et en même temps très proches dans le quotidien, de la manière d'approcher le quotidien.
Le photographe Nicro Crino à l'appartement à Vevey. On peut aussi imaginer que le statut de photographe n'est évidemment pas le même pour son aîné qui a commencé à travailler au milieu des années 40 et lui qui est né en 1981, Florence.
Eh bien, figurez-vous que pour le plus jeune, qui a commencé d'abord par vouloir être acteur, pour devenir réalisateur, il va faire des images, il s'essaiera aussi à la réalisation commerciale, mais très difficile, selon lui, encore aujourd'hui, de pouvoir vivre de son art. On l'écoute.
So then I worked in the industry, and then I saw that.
Il travaille comme réalisateur dans le monde du cinéma. Il dit il y a beaucoup trop de gens dans ce milieu, beaucoup trop d'opinions, trop de cuisiniers en cuisine, comme il dit, et que finalement d'imposer des idées, d'imposer sa créativité, c'est très compliqué. Il a évoqué aussi l'arrivée évidemment de Netflix, enfin de tout ce système de surproduction qui fait que tout est standardisé et que finalement il ne trouvait pas sa place. Il dit l'auteur est mort, the author is dead, et qu'il a compris qu'il valait mieux travailler finalement tout seul pour laisser la place à toute sa créativité, que maintenant, en tant qu'artiste, comme il dit, il peut exprimer toute sa créativité sans contrainte de Netflix.
New things come up, and now as an artist, I can be a filmmaker.
Le photographe Nicro Quino, qui, donc, maintenant qu'il est artiste, peut enfin faire du cinéma.
Absolument,
avec vous, Florence,
ouais.
Grivel, avec la traduction de Stéphane Ostol, le directeur de Vevey Images, co-curateur de cette expo dédiée donc à ces deux photographes issus du continent africain, Nicro Quino et James Barnor. C'est donc à l'appartement.
Et ça roule jusqu'au mois de juillet, j'ai oublié de donner la date.
Eh ben, ça roule.
Voilà, ça roule. Bah, allez-y, oui. Allez-y.
On y va.
Un peu de ma chance se sauve. Face aux choses, je sens que tout se décompose sous mes yeux. De tout ça, tu es la cause. Tu m'as noyé sous les roses.
C'est Milia que vous venez d'entendre dans Vertigo. La chanson s'intitule « Les renforts ». À presque 17h30, que se passe-t-il ailleurs dans le monde merveilleux de la culture ? Oh. Écoutez ceci.
L'actu culturelle dans Vertigo.
Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellences, Ladies and Gentlemen, thank you.
Les remerciements de la cantatrice et chef d'orchestre Barbara Hannigan, récompensée hier par un Polar Prize, dont je rappelle la série d'interviews formidables de La Vie à peu près, toujours disponible sur les pages Espace 2 du site RTS.ch.
Ah oui, alors vraiment magnifique oui. Série, enfin produite, non.
Trois heures d'interview avec Barbara Hannigan.
Oui, et c'est Francesco Belmonte qui a exactement. Très très bien mené ces interviews. Elle est enthousiasmante, cette
tout
femme.
Tout à fait. Autre récompensé, le groupe Queen et le pianiste Herbie Hancock. Le Polar Music Prize a été créé en 1989 par un certain Stig Anderson, ça vous parle? Non. Éditeur, parolier, manager de ABBA.
Oh oui.
Ah voilà. Il avait un peu d'argent de côté. Il s'est dit tiens, je vais créer un prix. Le prix est décerné à des individus, des groupes ou des institutions en reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles. Le Polar Music Prize s'adresse donc en fait à tous les genres musicaux, si l'on en juge par les impétrants précédents, Arvo Pärt, Angélique Kidjo, Sonny Rollins, Pierre Boulez, Metallica. Bref, l'éclectisme des lauréats est là pour le prouver.
Thank you.
Bertrand Mazera devient le nouveau directeur du musée Ariana de Genève dès le 1er août. Il succède à Isabelle Neff-Gabulba. L'Ariana, c'est le seul musée en Suisse entièrement dédié à la céramique, au verre ainsi qu'au vitrail, avec près de 27 000 œuvres conservées. Il montre des collections de référence où toutes les techniques céramiques et la grande majorité des techniques du verre sont représentées. C'est un musée qui, je le signale, défend aussi la création contemporaine. Les prix littéraires de l'Académie romande 2025 ont été attribués par Libraire de Suisse romande. Le prix Ève est attribué à Nina Pellegrino pour Charlouz et c'est publié chez Cousumouche, une autofiction inspirée de ses propres expériences et addictions diverses. Fan de Rimbaud, elle était allée à Charleville-Mézières et c'était un peu la loose, donc elle appelait ça Charlouz. Voilà, c'est l'explication du titre de son roman. Le prix Adam revient à Luca Brunoni pour En surface, publié chez Finitude. C'est l'histoire d'une mère qui soupçonne son fils d'être impliqué dans la mort d'un jeune homme lors d'un accident de voiture. Et le prix de poésie va à Mathieu Mander pour Les arbres avaient des yeux et les tomates étaient en boîte aux éditions des Fleurs.
C'était l'actu culturel de Vertigo à retrouver sur Play RTS. L'invité de Vertigo.
Et notre invité est Floriane Soulos pour son roman Soma, publié chez Robert Laffont dans la collection Ailleurs et Demain. Bonjour à vous.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Mais très bien, je suis très contente d'être là, merci.
Eh bien écoutez, on est très content de vous recevoir. Vous êtes en duplex depuis notre studio de Paris, au bon soin d'Alexandre Lemierre. Alors, on ne vous connaît pas beaucoup, Floriane Soulos, si ce n'est qu'on sait que vous êtes autrice de science-fiction, un style qui est à l'opposé de celui de notre chroniqueur du présent, Yacine oui, Memra. Lui fait des portraits très actuels et un petit peu fantaisistes de nos invités. Nous l'excusons par avance. Voici son porte-interview de vous. Bonjour Yacine.
Bonjour Pierre-Philippe, bonjour Floriane Soulos. Alors merci Pierre-Philippe d'avoir souligné à quel point je suis une personne ennuyeuse. C'est toujours sympa. C'est
ça me démange.
C'est trop fun, merci beaucoup. En tout cas, ennuyeuse, c'est un mot qui vous va peu, Floriane Soulos. Vous êtes ingénieure, doctorante en génie mécanique, autrice de SF. Vous donnez donc l'impression de vivre 5 vies parallèles ou d'être une cyborg. Et la vérité, elle est forcément plus terre-à-terre puisque vous êtes née en 1989 à Paris, en France, qui est quand même la capitale. Waouh! Dites donc, c'est extraordinaire. Et Wikipédia dit de vous que vous avez, je vous jure que c'est vrai, c'est vraiment écrit comme ça, 35 ou 36 ans. Voilà, c'est ce qui est écrit. Et ça augure déjà de certains thèmes de vos écrits qui sont la frontière entre l'humain et la machine. Peut-être que bientôt, sous lieu de naissance sur Wikipédia, on lira, je sais pas, vers Bourgoin ou Lille, je crois. Vous grandissez avec des bouquins dans les mains, des bouquins de genre, forcément, comme Tolkien ou Asimov. Et pour l'enfant que vous étiez, la littérature était forcément ancrée dans des mondes fantastiques. En même temps, je peux pas vous jeter la pierre. Quel enfant de 7 ans a déjà lu du Annie Ernaux? Sûrement un enfant qui a perdu toute innocence. Vous vous passionnez donc pour les univers irréels, mais aussi pour la science, ce qui vous mènera à obtenir un doctorat en génie mécanique grâce à votre thèse sobrement titrée « Développement d'un modèle mécanique pour la prédiction des dommages de panneaux composites aéronautiques soumis à un choc foudre », un ouvrage trépidant que j'ai lu lors de mes dernières vacances à la Grande Motte. Floriane Soulos, est-ce que pour vous écrire la SF, il faut autant maîtriser la science que la fiction?
Non, je pense pas. Je pense que ça va souvent ensemble parce qu'en fait, je me rends compte que plus je rencontre de gens dans le milieu de la littérature qui écrivent de la science-fiction, plus je me rends compte qu'en fait, c'est des anciens ingénieurs ou qu'ils ont fait des études de sciences. Mais je connais plein de gens qui n'ont pas fait d'études de sciences et qui écrivent de la science-fiction. Je pense que tant qu'on a l'amour de la découverte et de tout ce qui peut améliorer le quotidien ou qui fait changer le monde, on peut tous écrire de la science-fiction.
D'ailleurs, vous l'avez dit, vous êtes aussi, enfin, on le sait maintenant, vous êtes autant ingénieur que autrice. Comment vous faites pour cloisonner votre temps pour pouvoir gérer les deux?
J'ai un emploi du temps très bien cadré où j'ai des plages d'écriture. En fait, j'essaye d'écrire tous les jours quand je suis en période de production. Et du coup, je me lève le matin exprès pour avoir un temps d'écriture. Après, je vais travailler et le soir, je dors beaucoup. parce que sinon je meurs.
Ça m'a épuisé, vous m'avez vraiment épuisé.
Ouais, moi aussi ça me fatigue, rien que d'en parler, ça m'épuise.
Alors côté littéraire, vous vous faites remarquer en 2018 avec Rouille, un roman steampunk situé dans un Paris alternatif de 1897, où une prostituée amnésique enquête sur une série de meurtres, et vous enchaînerez ensuite avec plusieurs œuvres, romans, romans graphiques, nouvelles ou novellas, qui sont des longues nouvelles, hein, des romans courts et pas des soap-opéras en langue espagnole, que je trouve honteusement méprisé sur cette antenne, monsieur Kader. Pour moi, Regos de Amor y Poder est l'équivalent de The Wire, mais bon, voilà, on ne veut pas en parler. Revenons à vous, Florian Soulas.
Ça méritera un débat un jour.
C'est vrai, un jour on devrait en parler. Un petit peu de Floricienta aussi. Revenons à vous. Il y a un point commun à toutes vos œuvres, c'est qu'elles ont toutes une protagoniste féminine. Vous militez aussi dans le monde réel pour plus de diversité en mettant en avant des autrices lorsque vous rejoignez notamment la co-direction des Utopiales de Nantes l'an passé. Et pour vous aujourd'hui, c'est quoi les plus grands chantiers en termes de diversité et d'inclusion dans votre domaine créatif?
Pour moi personnellement, ou de manière générale?
De moi, vous personnellement, oui.
Allez, pour vous personnellement, allez, soyons fous.
Alors moi, mon cheval de bataille, c'est toujours les femmes. Parce que, en fait, il y a pendant très longtemps, même quand j'ai écrit Rouille, en fait, je me rends compte que je n'osais pas ouvertement parler de science. Et je me cachais un peu en disant, voilà, j'ai un personnage masculin qui est un peu une sorte d'ingénieur autodidacte. C'est un peu ma manière de parler de science sans vraiment assumer ce côté-là de ma vie, en fait. Et en fait, plus j'ai évolué dans ma carrière, plus je me suis rendu compte que le problème, c'était que je m'autorisais pas à écrire de la science-fiction, parce que j'avais jamais lu de science-fiction écrite par des femmes ou ayant des personnages féminins vraiment intéressants. Et donc, j'ai mis très longtemps, alors que pourtant, je suis ingénieur, donc on pourrait se dire que s'il y a bien quelqu'un qui va écrire de la science-fiction, c'est plutôt des gens comme moi. Voilà.
Oui,
mais en fait, j'ai mis très
longtemps.
Oui. Mais j'ai mis très longtemps à le faire. Et en fait, je me suis dit, moi, la jeune fille que j'étais de 15-16 ans qui lisait de la SF que son père lui passait, donc dans des vieux exemplaires des années 80 que lui lisait quand il était jeune, n'a jamais eu de mal, en fait, à s'identifier à des personnages masculins, pour le moins, en fait, pas très intéressant quand on y pense, parce que Asimov, franchement, c'est un peu daté, et quand on le relit, c'est pas incroyable. Et pourtant, ça m'a jamais empêché d'adorer ces univers-là. Donc je me dis, en fait, il n'y a aucune raison qu'un homme ou un jeune garçon d'aujourd'hui n'arrive pas à s'identifier à des personnages féminins. Et je pense qu'on a des siècles d'histoire à rattraper où les femmes n'ont pas été présentes et où, en fait, on a plein de choses à dire. Donc c'est ça un peu mon cheval de bataille. Et ensuite, je dirais que le gros chantier de l'imaginaire aujourd'hui, mais de la littérature en général, c'est l'inclusion vraiment large des personnes de couleur, des personnes handies, des personnes transgenres. Nous, dans le milieu, en fait, je pense que quand on est artiste, on est plus ou moins sur le spectre de quelque chose, forcément. Sinon, on s'orienterait vers des métiers vraiment très traditionnels par défaut. Et en fait, je connais, moi, depuis toujours, des personnes trans, des personnes lesbiennes, des personnes... vraiment de tous les milieux. Et je me dis, c'est dégueulasse et c'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, on n'arrive pas à représenter cette diversité sans en faire forcément... le sujet d'un roman, mais de se dire qu'en fait, on connaît des gens qui font plein de choses, qui viennent de tous les milieux, qui ont toutes les vies et tous les passés possibles, mais on écrit toujours les mêmes histoires de, pardon, mec cis blanc hétéro chiant.
Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, je me demandais si, après coup, il y a des œuvres classiques ou bien des auteurs, même généralement de SF ou de fantastique, qu'on lit encore aujourd'hui et que, à des années après, vous dites, vous voyez avec un nouvel œil en disant, ouais, mais en fait, c'est extrêmement problématique maintenant.
Mais oui, mais Asimov oui. Détestait les femmes. Asimov a été connu pour être un harceleur. Et j'ai relu il y a pas très longtemps, il y a quelques années, certains romans, je pense à La fin de l'humanité ou je ne sais plus lesquels, mais en fait, il n'aime pas les femmes et que s'il y en a, alors déjà s'il y en a, ce sont les méchantes. Et en fait, ça ne l'empêche pas d'écrire de très bonnes histoires et d'avoir un univers qui est hyper intéressant. Mais au niveau personnage et caractérisation de ces personnages, on lirait plus du tout quelque chose comme ça aujourd'hui, quoi.
Non, d'ailleurs,
c'est assez marquant.
C'est vrai qu'il y a qu'à lire Dune, la version évidemment de Frank Herbert, donc les livres, pour se rendre compte que c'est extrêmement homophobe, ce qui n'était pas présent dans les films. Donc vous verrez qu'un jour le méchant Harkonnen est en fait extrêmement, de manière extrêmement homophobe dans les bouquins. Mais on va pas faire une dissertation sur Dune
après,
en direct.
C'est aussi intéressant de se dire que chaque roman est aussi, ne peut pas être pris en dehors du contexte de son époque.
Oui, bien sûr.
Et voilà, en fait, moi, je me dis, Asimov, bon, je le connais pas personnellement, mais à son époque, il devait pas y avoir beaucoup de nanas qui faisaient des sciences dans son univers à lui, tous les jours. Il y en avait. Elles étaient très invisibilisées, mais il y en avait, mais il y en avait pas beaucoup. Ouais. Et du coup, lui, il écrit ce qu'il voit tous les jours dans sa vie, et dans sa vie, il y avait probablement, très certainement, que des mecs blancs autour de lui. Il a écrit ça. Voilà.
C'était ça, les États-Unis des années 60.
Exactement. Voire 50 même, ouais. Absolument.
Et donc, je l'ai dit, vous multipliez les tâches, vous n'êtes pas un cyborg puisque vous avez fait un burn-out. Dieu merci, vous êtes donc humaine. Et est-ce que je viens de dire que j'étais heureux que vous ayez fait un burn-out en direct à la Radio Nationale?
Oui, c'est
ça qui vient de se passer. Je suis vraiment profondément désolé. Mais vous avez mis des outils en place pour ne pas le revivre. Vous travaillez plus le soir, vous avez diminué votre présence dans des festivals, vous allez vous coucher tôt, etc. Et c'est des rituels que vous avez aussi mis en place dans votre écriture. Alors attention, chères auditrices, découvrez les coulisses du monde de la littérature fantastique. Florian Soulas écrit sur Microsoft Word, mais pas
oui,
la version actuelle.
Le meilleur
non,
outil.
C'est
non.
l'avant-dernière version que vous utilisez. C'est tellement glamour. Alors pourquoi cette itération de Word en particulier?
Alors, parce que c'est celle que j'avais piratée sur mon vieux Mac à l'époque. Non, mais j'ai changé récemment, en fait. Je suis passée sur Microsoft 2016, je crois.
Ah oui, quand même, qu'un 9 ans, quand même.
Oui, 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 non. Et elle n'est pas terrible, d'ailleurs, cette version.
À cause de quoi?
Mon ancienne version. Voilà, je regrette mon ancienne version. Parce qu'ils ont, et après, ils ont tenté des choses, c'est tout à leur honneur. Ils ont tenté de faire des ajouts de fonctionnalités qui ne sont pas très ergonomiques, mais ils ont tenté des choses. Donc, il y a quand même du bien.
Et le mieux est l'ennemi du bien, quand même.
Voilà, exactement. Voilà, ouais. Mais oui, c'est vrai que j'adore Word. Je trouve que c'est un outil très simple. Et qu'on n'a pas besoin de. En fait, je me dis que l'écriture, c'est un peu comme. C'est un peu la course à pied de l'image. Enfin, des hobbies. En fait, on a besoin de rien. Mmh. On a besoin d'un papier, d'un crayon ou de Word. Et on peut écrire des romans, imaginer des mondes, faire voyager les gens. Et en fait, c'est vraiment. Ça demande le minimum syndical. Tout le monde a un éditeur de texte sur son ordi. Moi, j'avais Word, mais si ça avait été OpenOffice à l'époque, ça aurait été OpenOffice aujourd'hui. Mais voilà. Vraiment, moi, je suis une adepte de la simplicité en toute chose.
Mais si on parle quand même d'écriture en ce qui vous concerne, Florian Soulas, écrire avec un logiciel, écrire à la main, est-ce que ça change quelque chose pour vous ou c'est simplement un outil? Est-ce que votre imaginaire fonctionne différemment? Est-ce que vous écrivez différemment?
C'est une bonne question. Depuis un an, je me suis remise à écrire à la main, quasiment tous les jours. Je prends une demi-heure ou 40 minutes pour écrire à la main. Et en fait, j'écris pas du tout la même chose, par contre. Et je me rends compte que quand j'écris pour produire une histoire, j'ai besoin de pouvoir aller vite, parce que mon cerveau va vite, et qu'il n'y a que le clavier qui me permet de suivre en fait vraiment le rythme de mes pensées. À la main, alors ce qui est parfois...
Vous tapez vachement vite alors.
Je tape très vite, ouais. Je tape très vite. Mais c'est vrai qu'à la main, on n'écrit pas du tout de la même manière, et j'ai eu tendance plutôt à écrire de la poésie à la main, où là, je prends vraiment le temps de choisir ce que je veux dire, comment je veux agencer les mots, ouais, et vraiment ce que je veux faire. Mais c'est vrai que pour écrire, je trouve qu'il y a une simplicité de se dire, en fait, voilà, j'ai un outil qui me permet de suivre ma pensée au rythme où elle va. Et du coup, ça donne lieu à des... Enfin voilà, ça me permet de me... J'ai pas... Enfin, je suis pas frustrée par le fait que mon poignet ou mes mains me font mal, alors qu'en fait, j'ai plein de choses à dire.
Ou d'avoir énormément d'encre sur les mains. À chaque oui, fois que j'écris la main, j'ai l'impression d'avoir 5 ans à nouveau maintenant. C'est
ouais, terrible. Et il y a pas très longtemps, j'ai essayé de réécrire au stylo plume, et c'était super difficile. C'est vraiment une habitude de tenue de l'outil quoi, que j'avais complètement perdu, alors qu'au collège ou au lycée, on écrivait tout à la plume.
Et c'est une compétence qui est en train de se perdre, à part ça. Hein.
Mais oui, totalement. Hein. Ouais.
Et
c'est très dur. Et j'ai eu mal aux doigts pendant une semaine parce que j'ai essayé d'écrire pendant 5 jours avec un stylo plume. Et tiens, genre, mais comment je faisais comment faisait-on avant quand on écrivait tout le temps comme ça? Et c'est vrai qu'on perd ses habitudes d'écrire à la main. Et c'est dommage parce que c'est joli.
Oui, c'est vrai. C'est le futur. Voilà, on est devenus des androïdes. On doit utiliser des outils digitaux pour pouvoir s'augmenter. Donc merci infiniment, Floriane. Vous n'êtes pas une cyborg, Dieu merci. Vous êtes humaine, très forte, polyvalente et anormalement active, mais humaine. Et ça, c'est presque la science-fiction pour moi, tellement vous faites des choses. Bravo et bonne route.
Merci.
Florian Soulas, un mot quand même sur votre roman. Il s'intitule donc Soma, S-O-M-A, publié chez Robert Laffont, dans la collection Ailleurs et Demain. On parle donc de science-fiction. C'est un futur assez proche dans votre roman auquel on est confronté. On y suit les aventures de Pisa, qui est une cyborg, la seule de son espèce apparemment. Elle est capable de s'interfacer avec n'importe quelle machine, intelligence artificielle ou être humain. Et l'action se déroule dans une ville que vous avez appelée Neo-Lutetia, tout de suite, cela évidemment suscite des images en nous. On est donc dans un futur pas si lointain. Risa va commencer à croiser des clones d'elle-même dans la ville et dans des circonstances un peu étranges. Pourquoi, comment, qui est derrière cette manipulation? Voilà donc le début de votre roman. On l'a dit tout à l'heure avec Yacine, il y a un très fort intérêt chez vous pour la science-fiction en raison de votre métier d'ingénieur. Vous travaillez dans l'aéronautique. Là, on parle de cyberpunk, de steampunk. Enfin, on mélange un petit peu tous les genres. Expliquez-nous quel est le cadre de ce roman et comment est-ce que cette idée est venue en vous?
C'est une bonne question. En fait, c'est venu assez naturellement parce que je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si je me retrouvais face à moi-même dans la rue. Et je me suis demandé est-ce que je serais même capable de me reconnaître moi-même si je me croisais dans la rue, parce que en fait, on n'a pas l'habitude de se voir nous-mêmes comme une personne face à nous, quoi. Et qu'est-ce que ça susciterait comme émotion et comme contradiction de, enfin, est-ce que j'aurais envie de savoir pourquoi on a fait ça, dans quel contexte, enfin vraiment, c'était vraiment cette image de ce personnage de Risa qui se retrouve face à elle-même et qui comprend pas bien ce qui se passe, qui a drivé un peu l'histoire. Et comme vous l'avez dit, moi j'ai déjà écrit du steampunk. Je pense que le cyberpunk c'est un peu la version au-dessus en matière de technologie. Et j'ai vraiment une fascination pour tout ce qui est modification corporelle, le fait qu'on se rende pas compte qu'on vit déjà dans un monde augmenté où la méta-humanité est là, parce que en fait les lunettes c'est déjà ça, mais les prothèses de cœur, les prothèses de hanches, enfin toutes ces opérations qui visent à prolonger la vie ou à améliorer des compétences qu'on a perdues avec le temps sont déjà des modifications profondes de ce qu'est un être humain. Mais en fait, on l'a tellement accepté qu'on se rend pas compte que cette idée de la méta-humanité, elle est déjà là. Elle est déjà en cours. C'est les personnes aveugles qui arrivent à voir. C'est les malentendants qui ont des outils pour entendre. Enfin, en fait, ça existe déjà. Et je trouve que c'est passionnant parce que je ne vois pas comment l'humain ne pourrait pas être attiré par ça. Cette idée de déformer son corps, de le modifier pour le rendre plus performant, parce qu'on est vraiment toujours dans une recherche de performance. Mais de montrer aussi justement que ça n'a pas toujours des avantages et que ça se fait forcément au prix de quelque chose. Et le cyberpunk, qui est un univers que j'aime beaucoup, enfin, j'ai pas beaucoup joué au jeu, mais j'ai beaucoup fait de jeux de rôle en cyberpunk. Et je trouve que c'est un univers qui est très riche, notamment parce que c'est un des seuls univers qui met vraiment en avant les inégalités sociales apportées par la technologie. Et ça aussi, on l'oublie beaucoup. Et c'était quelque chose qui me parle en tant qu'ingénieur, en fait, d'être entouré de technologie toute la journée. J'ai l'impression qu'on a un accès qui est différent à cette technologie-là et à ce que ça implique d'utiliser la technologie au quotidien, les IA, mais d'autres technologies beaucoup plus simples, entre guillemets, mécaniques, quoi. Et du coup, c'est vraiment un univers qui me parle et je me suis dit, ah, ce serait intéressant de mettre ce problème-là dans un monde où il serait possible de vraiment cloner les gens et où ce serait... pas forcément bien vu, mais pas forcément interdit non plus. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à imaginer Risa. Et ce que je voulais faire surtout avec ce cyberpunk, c'était bousculer un peu les codes du genre. Parce que j'ai l'impression qu'avec le jeu, qui est super d'ailleurs, parce que alors, j'y ai pas beaucoup joué, mais j'ai beaucoup regardé des gens jouer à ce jeu.
Cyberpunk 2077.
Ouais. Et 77, pardon. Et en fait, c'est un jeu qui est très masculin. En fait, qui a figé une esthétique du cyberpunk qui est très masculine et qui surtout est hermétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne respecte plus cette esthétique-là, on va nous dire que c'est pas du cyberpunk.
Oui, on sort du cadre.
Ça a vraiment figé quelque chose, quoi.
Ouais.
Et je me suis dit, OK, comment je peux utiliser ça pour raconter autre chose et mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et au lieu de mettre en avant un personnage, bon, souvent masculin, mais donc ici, Risa est une femme. Qui est seule, déprimée, abandonnée de tous et probablement en quête de vengeance, je pourrais apporter autre chose, quelque chose qui tiendrait du groupe, de la famille, de la sororité.
Oui, de la sororité, justement, parce que c'est un groupe de femmes auquel on a affaire. Oui. Ce sont des héroïnes dans votre roman.
Oui, c'est vrai. Ouais. Et je trouve ça que c'était important de montrer qu'en fait, même dans un monde où on nous pousse à une individualité presque forcenée, en fait, on peut toujours faire du lien et que le groupe n'est pas exclu. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer ça.
Lorsque vous parlez d'humanité augmentée, est-ce que vous avez le sentiment avec votre roman d'explorer la sorte de zone grise dans laquelle on est aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on voit bien un peu se dessiner notre futur avec l'œil bionique qu'on voyait dans les années 80, les prothèses que vous avez mentionnées. Est-ce que la science-fiction, elle est là aussi pour questionner justement cette zone dans laquelle nous sommes en ce moment et peut-être poser les bases de questions éthiques qui vont surgir inévitablement à un moment ou à un autre?
Je pense aussi que c'est quelque chose qui existe déjà depuis des dizaines d'années. En fait, la science-fiction, elle fait ça déjà depuis très longtemps. Ce qui est un peu frustrant parce qu'on a vraiment l'impression qu'on crie un peu dans le vide et qu'on ne nous écoute pas. Mais je pense que c'est important de continuer à le faire. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est peut-être plus facile parce que toutes ces technologies-là, maintenant, on les voit arriver. Alors que dans les années 60-70, on imaginait des choses, mais ça paraissait encore loin le moment où on arriverait vraiment à construire, alors pas des vaisseaux spatiaux, ça n'arrivera jamais, mais enfin aller sur la Lune ou à envisager peut-être d'envoyer des gens en orbite pendant 3 minutes, ça leur paraissait inconcevable aux personnes de tous les jours, alors qu'aujourd'hui, on voit ces choses-là. Et du coup, cet accès à la technologie et cet emballement de la technique, on le ressent tous les jours. Aujourd'hui, plus personne ne vit sans smartphone, à part Roland Lehoucq peut-être, qui n'a pas de téléphone, qui est le président d'Estopial et qui n'a pas de téléphone.
J'ai rigolé poliment la référence, mais je ne savais pas absolument quoi qui c'était.
Voilà, mais en plus, c'est vrai. Donc lui, n'a pas de téléphone portable. Mais c'est très rare, les gens qui ne sont pas connectés, qui n'ont pas de compte Instagram ou de compte Facebook ou de compte Twitter. En fait, tout le monde est connecté et ça ne viendrait plus à l'esprit de vivre sans ces outils-là. Alors que, moi, quand je suis né, ça n'existait pas.
Il n'y avait
pas de téléphone portable.
Un truc que je trouvais très intéressant avec l'emploi du cyberpunk, c'est que par exemple, on a plus ou moins le même âge. Et en ayant grandi, par exemple, quand je regardais Blade Runner, ça me semblait être un futur très lointain. Et en fait, soudainement, ça m'apparaît comme étant des images que même cyberpunk, le jeu vidéo, me semblait pas... Je me dis pas que c'est
ça
de la SF,
plausible.
SF. Et donc, j'ai l'impression que c'est presque une... En fait, ça permet d'en créer des enjeux sociaux très très actuels et technologiques très actuels. Fondamentalement, ça pourrait se passer dans 5 ans, ça ne changerait pas grand-chose.
Ouais. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, on a cette chance ou cette malédiction de vivre dans une époque où toutes ces technologies-là et ces imaginaires-là, en fait, nous paraissent accessibles, voire plausibles, et probablement même juste... Enfin, c'est le futur. Et du coup, ben, c'est plus facile pour nous de pouvoir dénoncer quelque chose quand les gens peuvent facilement s'imaginer que ça pourrait vraiment leur arriver.
Est-ce que ça va pas tellement vite que la SF se ringardise aussi, tout aussi vite ?
Non, je pense pas. Je pense que, au contraire, on a aujourd'hui accès en fait à toute une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices surtout, qui ont des imaginaires vraiment hyper intéressants, hyper riches, et que maintenant qu'on leur donne la parole, et ben ça, surtout en fait des femmes qui étaient très peu publiées en science-fiction avant, et ça nous permet de donner un nouveau souffle. Je pense à Chloé Chevalier qui a publié aussi dans Ailleurs et Demain une nouvelle de space opéra hyper positive. Enfin vraiment c'est génial. Mais je pense à plein d'autres autrices comme Estelle Fay. Je pense à leur nom m'échappe forcément parce que je panique. Mais Émilie Kerbalek, Émilie Kerbalek par exemple aussi qui publie chez Albin Michel, qui fait de l'anticipation maintenant et c'est vraiment magnifique ce qu'elle écrit et je recommande à tout le monde d'aller lire ça. Et plein d'autres autrices, en fait, dans des univers vraiment très SF ou beaucoup plus d'anticipation. Je pense notamment à Katia Lanero-Zamora qui a publié une novella chez Argile dans leur collection Restart sur les injonctions à la maigreur faites aux femmes. Où on imagine une secte qui vient en fait encourager les femmes à maigrir dans un concept hyper, en fait hyper effrayant parce qu'on pourrait se dire que ça pourrait arriver aujourd'hui. Et tous ces imaginaires-là, je pense, donnent ce nouveau souffle à la science-fiction. Et on a encore plein de choses à dire et maintenant qu'on nous donne la parole, ben, on va la prendre et on va pas la lâcher.
Florence, c'est une question pour vous.
Oui, c'est une question... Peut-être pas tellement science-fictionnelle, mais toutes ces femmes, ces héroïnes qu'on trouve dans votre livre, est-ce qu'on pourrait faire connaissance avec l'une ou l'autre d'entre elles ? Qui sont-elles ? Comment elles sont agies ? À quoi ressemblent-elles ? Qu'est-ce qu'elles font ?
Dans le roman ?
Oui, dans le roman, ouais.
Eh ben donc Rissa, qui est notre héroïne principale, en fait fait le lien entre ce que j'appelle l'enclave et le reste du monde. Donc l'enclave, c'est une zone fermée en non-mixité. Où en fait elle récupère des femmes qui sont violentées de toutes les manières possibles et elle leur propose de se mettre à l'abri dans un endroit où on ne pourra plus les retrouver. Mais ça veut dire aussi se couper du monde extérieur parce que quand on rentre dans l'enclave, on n'en sort pas. Et il n'y a que Rissa qui fait le lien. Et il existe aussi toute une série de femmes dont par exemple Maëve qui est la fixeuse de l'enclave. Donc c'est la personne à l'extérieur qui trouve des contrats à l'enclave pour leur permettre de survivre qui elle par contre a choisi de rester à l'extérieur. Donc elle ne rentrera jamais dans l'enclave. Mais elle en fait partie dans ce réseau extérieur. Et en fait, Rissa fait le lien entre ces personnes. Donc elle va accomplir les missions, faire les livraisons et permet en fait de faire le lien entre toutes ces femmes qui vivent à l'abri et celles qui sont au dehors et qui prennent un peu plus de risques. Et puis on va rencontrer aussi entre autres Cassidy, qui est la créatrice de l'enclave et qui est une jeune femme dont on ne sait pas grand-chose dans la nouvelle pour l'instant, mais qui a fusionné entièrement avec son IA. Et qui donc, par défaut, ne peut plus quitter l'enclave. Et en constituant un peu le cœur, c'est elle qui a fondé cet endroit-là. Mmh. Et voilà, il y a toute une galerie de personnages qui sont très intéressants.
Eh ben, j'ai pas mal de décors, là, c'est super. Mais oui, non, mais c'est vrai. Ça ancre.
Et vous décrivez justement un monde qui est assez étonnant parce que lorsqu'on se projette dans le futur, en tout cas aujourd'hui, à l'heure où on parle énormément d'intelligence artificielle, on imagine que dans le fond, des robots feront tous les jobs à notre place, que l'intelligence artificielle sera là pour répondre à nos questions et que nous deviendrons des sortes d'humains oisifs qui ne seront plus vraiment obligés de travailler. Or, le monde que vous décrivez dans votre roman, Floriane Soulas, dans Soma, vous nous montrez un monde dans lequel effectivement il y a des super énormes entreprises qui dominent à peu près toute la planète. Et une armée de petites gens qui font des petits boulots qui les contraignent à une vie totalement miséreuse. C'est-à-dire que l'IA, dans votre imaginaire, n'a pas absolument conquis tous les espaces de nos vies.
Alors, il y a une partie d'IA parce que on voit que Rissa est quand même connectée. Elle a ses propres IA, enfin ses propres logiciels.
Elle fait bosser ses logiciels pour elle.
Elle fait bosser ses logiciels pour elle. Et du coup, en fait, elle arrive avec une vision un peu éclairée du « je sais ». Quelle mission je peux confier à mes IA et qu'est-ce que je dois faire moi toute seule. Donc elle a pas ce penchant à s'abandonner complètement à une technologie qu'elle ne maîtriserait pas. Et d'ailleurs même ses IA, elle les entraîne elle-même, elle les fait pas entraîner sur le réseau ou des choses comme ça parce qu'elle veut pouvoir contrôler ce qu'elle fait. Ouais. Et je pense que ça c'est une problématique qui est très actuelle parce que je pense que beaucoup de gens, mais même moi, j'ai essayé d'utiliser ChatGPT et en fait je me dis je ne comprends pas comment ça fonctionne. Et surtout je ne sais pas En fait, il faut vraiment s'intéresser à comment ça fonctionne pour pouvoir vraiment utiliser un outil. Et aujourd'hui, je pense que plein de gens ne comprennent pas comment fonctionne ChatGPT, mais parce qu'en fait, on ne leur donne pas l'occasion de comprendre comment fonctionne cet outil-là. Mmh. Et je pense qu'il n'y a aucun problème à utiliser un outil. Alors, pour moi, l'IA, on l'utilise tous les jours au travail. C'est un outil formidable. J'ai une amie qui a fait une thèse sur la détection des cancers par les IA. C'est incroyable. Par contre, la manière dont on utilise cet outil peut tout changer. Et je pense qu'en fait, il faut comprendre l'outil pour pouvoir l'utiliser bien. Et c'est ce que j'essaye de montrer de manière un peu détournée aussi, mais c'est pas vraiment le cœur du roman non plus. Ouais. Qu'en fait, tout est OK tant qu'on sait comment on fait les choses et pourquoi on fait les choses. Et après, j'imagine que, par exemple, dans un des quartiers qu'on n'explore pas vraiment dans cette novella, mais qui est mentionné, qui est Mécathédrale, donc qui est un peu leur quartier d'affaires, on pourrait voir des gens qui vivraient une vie très riche et très dirigée par les IA parce qu'ils auraient accès à des technologies très avancées qui leur permettraient d'être assistés en permanence sur plein de choses. Je pense aussi que toute technologie a un coût et que c'est un thème que j'ai déjà abordé dans Rouille, où en fait...
qui était votre premier roman, 2018. Ouais. Ouais.
Où en fait, la technologie, elle a forcément un coût et généralement, elle ne ruisselle pas jusqu'en bas.
Ouais.
Donc il y aura forcément des gens qui pourront faire plein de choses avec les IA et d'autres qui n'auront jamais accès à cette technologie-là par faute d'argent, par manque de moyens. Et ça sera une réalité parce que c'est le cas dans toutes les civilisations et avec toutes les technologies qu'on a eues.
C'est également ce que disait Elon Musk lorsqu'il évoquait l'homme augmenté sur lequel il travaille. Il disait, tant pis pour ceux qui n'auront pas les moyens de se payer toutes ces prothèses qui nous permettront de nous augmenter. Le temps file, le temps passe très très vite avec vous, Floriane Soulas. Merci de l'avoir passé en tout cas avec nous pour évoquer ensemble un peu de ce roman Soma, publié chez Robert Laffont dans la collection Ailleurs et Demain. Et vous évoquiez la possibilité peut-être de vous rencontrer un jour dans la rue. Figurez-vous que Bertrand Burgala a déjà réfléchi à cette question. Il en a fait une chanson qui s'intitule Ma rencontre et c'est avec celle-ci qu'on va se quitter. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci.
Les émissions de la journée pour accompagner vos nuits. RTS Première, il est 4h.